Bonjour à tous et bienvenue sur Startcast, une initiative du comité étudiant Polyentrepreneuriat à Polytechnique Montréal. Je suis Alexis, votre hôte aujourd'hui, et j'ai la chance d'être accompagné par Arnaud Latreille. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors, Arnaud est un étudiant en médecine à UdeM, à l'Université de Montréal, et un membre de l'équipe de l'entreprise de recherche en technologie médicale Vega Bioimaging. J'aimerais mentionner que j'ai rencontré Arnaud à un événement qui s'appelle La Grande Finale, un concours de pitch organisé par la YEP, qui est le comité entrepreneurial de l'HEC, où Arnaud et l'entreprise qu'il représente, Vega Bioimaging, ont remporté la première place et une bourse de 6 000 $. Donc encore, bravo pour ça Arnaud.
Merci.
J'aimerais que tu te présentes déjà un peu sur toi, ton parcours académique et comment tu t'es retrouvé membre de l'équipe de Vega.
Ouais, ben donc... Moi, je suis étudiant en médecine. Je suis rentré après mon cégep directement en pré-med, c'est-à-dire il y a 2 ans, ouais. Ça fait 1 an et demi que je suis en médecine. Et puis, j'ai rejoint l'équipe de Vega Bioimaging l'année passée. Ça fait pas mal d'un an pour vrai, je m'explique là-dedans. À travers des contacts interposés que je m'étais fait via la base entrepreneuriale des HEC Montréal.
OK, qui est un incubateur de
HEC. Ouais, un incubateur de HEC de startup.
OK, et comment tu t'es retrouvé à la base entrepreneuriale? Comment tu en avais entendu parler? Parce que toi, tu étais à l'Université de Montréal, tu n'étais pas à l'HEC.
Ouais, j'avais parti une autre petite startup avant, qui a aucun rapport vraiment avec ce que je suis en ce moment. Et puis, j'étais rentré avec cette startup-là, à la base entrepreneuriale. Puis, en parlant graduellement avec le monde de là-bas, remarqué que finalement, moi, au final, ce que je veux... Ben, genre, j'arrêtais pas de parler que ce que je voulais faire, c'est du medtech, d'être dans l'industrie de la santé. Mm-hmm. Puis donc, via des contacts interposés, je m'étais fait présenter à plusieurs... il y a un gars, en fait, qui est André Huglar, qui s'appelle. Il essaie de bâtir un fonds de VC, de financement, en fait, de start-up, de risque, là, de capital de risque, pour des start-up qui sortent de recherche universitaire. Mm. Puis... lui, il m'avait dit qu'il connaissait plein de startups, en fait, qui cherchaient des jeunes, des étudiants pour venir, je veux dire, juste travailler avec eux. Une compagnie, une startup, c'est une compagnie qui a trop de jobs à faire puis pas assez de personnel. Donc, c'est sûr qu'ils sont toujours intéressés, ouais, habituellement, à aller chercher des nouvelles personnes. Donc, lui, il m'avait introduit à comme 8 compagnies. J'en avais sélectionné 5. J'avais parlé à 5. Puis, Vega, ça a été vraiment un coup de cœur quand j'aurais parlé. Donc, j'ai rejoint cette équipe-là.
Ah bah nice, donc c'est à travers le réseautage que vraiment tu as trouvé une compagnie qui existait déjà.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est une compagnie qui existait déjà, effectivement, mais tu sais, c'est sûr que c'est vraiment une compagnie de recherche qui a très, très, très fort potentiel de recherche, très bien développé au niveau technologique, puis encore beaucoup d'espace pour faire de la commercialisation, grandir. Moi, je cherchais quand même à avoir un rôle où je pouvais toucher à tout puis vraiment bâtir pas mal une compagnie dès le début. Au niveau commercial, Vega, c'est pas mal ça. Comme, tu sais, c'est... Il y a un gros débalancement quand même à quel point il y a eu de la recherche qui a été derrière ça. Le produit est vraiment, vraiment incroyable.
Donc, une compagnie assez neuve pour quand même que tu sentes...
Ouais, c'est ça, que je puisse vraiment toucher à tout puis qu'il n'y ait pas encore comme 17 personnes qui travaillent dedans puis que je sois confiné à faire comme une seule job.
Et elle existe depuis quand, Vega?
Vega, ça a été incorporé en 2021.
OK.
Je te dirais, tu vois, c'est Cécile Darvio, étudiante ici à la Polytechnique, au doctorat en physique appliquée. C'est elle qui a vraiment parti ça. Ça sort du laboratoire de professeur Michel Meunier, qui est en nanophysique, ici à Polytechnique. Et puis, c'est vraiment une spin-off, en fait, de ce qui est sorti de son labo. Cécile a pas mal parti ça, commencé à essayer de développer une technologie derrière ça. Elle est allée au Santech, 2 ans.
Santech, qui est...
Un autre incubateur de startup issue, pas mal techno, à Montréal. Elle a fait ça 2 ans, et puis j'ai rejoint. Ouais, l'année passée.
Donc c'est très intéressant pour ceux qui sont à Poly, c'est un exemple d'entreprise ou de projet de recherche qui vient de chez nous, quoi.
Ouais, vraiment, non, 100%.
Ouais. C'est excitant.
Ouais, ils en ont eu quand même plusieurs pour vrai, des projets de recherche incroyables à Polytechnique. Il en manque pas, mettons.
Yeah, c'est très excitant à entendre ça. Et toi, Arnaud, t'es COO, donc Chief Operations Officer de Vega Bioimaging, qui est un titre... en fait, j'aimerais juste que plutôt que tu me dises, que tu me décrives tes rôles, en gros, qu'est-ce que tu fais dans la compagnie?
C'est sûr, Chief Operating Officer d'une. Tu sais, je veux dire, on n'a pas d'employé à nous, là, donc.
C'est un peu officiel pour.
Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire que je ne suis pas CEO. Ce que je fais, c'est. Moi, je ne touche pas à la technologie. je vais être cet été pas mal dans le labo de recherche, mais c'est vraiment pas moi qui ai développé ça. C'est vraiment professeur Meunier, Sergei Patsovski, qui est un chercheur à la Polytechnique, Cécile Darviaux, étudiante au PSJ, et Julien Fillon, qui est étudiant finissant la... Il a fini sa maîtrise en fait en bio-ingénierie. Vraiment eux qui ont touché à la tech. Moi, j'ai pas touché. Moi, je suis rentré pour vraiment développer au niveau commercial, aller parler à des médecins, parler à des gens qui pourraient être intéressés, essayer de trouver du monde, faire des concours de pitch. Ramener de l'argent là-dedans un peu.
Ouais, bah, t'étais bon. C'est sûr que ils t'ont bien choisi.
Merci. Ouais, c'est ça. Donc, ça ressemble vraiment ça à mes rôles, le développement un peu plus vraiment d'affaires. En ce moment, par exemple, on est en train de travailler pour refaire le site web au complet, qui est, genre, si tu veux le voir, c'est vraiment un site de chercheurs en ce moment. On va essayer de faire de quoi.
j'ai vu ça.
Ouais, c'est ça. On va essayer de faire de quoi un peu plus crocheur, mettons. Ouais. Donc, ça ressemble plus à ça, mes rôles.
Bah, c'est une belle histoire que c'est quand même une entreprise où tu remplis des rôles pour lesquels bah, tu es quand même bien qualifié et eux, ils avaient besoin de quelqu'un comme toi. Toi, tu avais besoin d'une entreprise qui remplissait un peu tes idées de travailler dans le biomédical, mais tu n'avais pas les connaissances pour travailler directement avec la technologie.
Effectivement, ouais, c'est ça.
Donc, les pièces du puzzle ont quand même
vraiment bien fité.
Bien marché.
Après ça, j'avais pas non plus tant d'expertise prérequise pour ça. J'en avais un peu quand même, mais c'est sûr que tu apprends beaucoup sur le tas, puis tu parles à énormément de gens, tu pratiques à faire des pitchs.
C'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat.
Ouais, vraiment cool. Puis surtout d'être accompagné. Mettons, le monde à la base, pour vrai, c'est vraiment du bon accompagnement.
Ouais, la base entrepreneuriale, on entend beaucoup de bons.
C'est vraiment hot.
Ben, parlons de choses sérieuses. C'est quoi Vega Bioimaging à la base? Qu'est-ce que vous faites? C'était quoi le début? Qu'est-ce que c'est maintenant? Et qu'est-ce que ça va devenir?
Ouais, c'est une bonne question. Donc, en gros, c'est parti d'une problématique qui existe en histopathologie. L'histopathologie, c'est la branche de la médecine qui va regarder des tissus humains, puis on va essayer de regarder c'est quoi les cellules, au niveau vraiment des cellules. On regarde des cellules, puis on essaie de tirer des diagnostics souvent de ça. En ce moment, jusqu'à 20% des femmes qui ont un cancer du sein auraient un traitement suboptimal. Parce que les technologies qui sont utilisées pour décider quel traitement offrir à un patient atteint de cancer ont des taux d'erreur qui vont jusqu'à 30%. Ces technologies-là, c'est une vieille technologie de 40 ans basée sur de la coloration qui est très subjective aux médecins. Les médecins vont faire beaucoup d'erreurs là-dedans, ce qui fait en sorte que des hauts taux d'erreur, donc des milliers de femmes, par exemple, en cancer du sein, parce que nous, on travaille sur le cancer du sein, là, mais des milliers de femmes en ce moment, donc des traitements coûteux avec beaucoup d'effets secondaires. Quand je dis coûteux, c'est vraiment coûteux, l'oncologie, là, c'est, on parle de 150 000 par année, là, habituellement, des traitements. Wow. La plupart des traitements, donc, en ce moment, on tourne autour du 9 000 $ au 21 jours, un cycle. Donc, très coûteux, mais souvent, donc, on va faire des erreurs. On va donner donc des médicaments extrêmement coûteux à des femmes qui ne devraient pas vraiment l'avoir. On aura donc un gain thérapeutique limité. Ce problème-là d'identification, de marquage de protéines au niveau du diagnostic, ça représente aussi 23 milliards de dollars en économie potentielle pour l'industrie pharmaceutique à chaque année. Pour y revenir plus tard. Donc nous, vraiment, pour régler ces problèmes-là, on développe une nouvelle génération de kits de diagnostic compagnons qu'on appelle, capable de décupler la précision des tests de diagnostic et de réduire les pertes associées au développement de médicaments. Notre technologie, donc bien sûr, issue de la Polytechnique, est 10 fois plus précise que le standard de soins actuel et a été développée en partenariat avec des pathologistes au Centre de recherche du CHUM pour être complètement intégrable dans n'importe quel laboratoire à travers le monde.
Et ça, c'est des technologies donc de diagnostic de cancer.
Ouais, à la deuxième étape. Donc, c'est ça. Un diagnostic de cancer, ça va être la première étape. Donc, mettons, pour le cancer du sein, c'est on va sentir une masse, on va aller faire l'imagerie, puis là, on va voir, il y a un cancer. D'un coup, qu'on sait qu'il y a un cancer, on veut savoir à quoi il ressemble, ce cancer-là. Tous les cancers sont différents. On veut savoir c'est quoi les protéines qui sont exprimées dans ce cancer-là, c'est quoi, et où la mutation dans ce cancer-là, pour être capable d'utiliser un traitement qui veut le plus possible attaquer ce cancer-là sans attaquer le reste du corps. Parce que un cancer, à la base, la raison pour laquelle ça se développe, c'est que le corps n'a pas identifié que c'était problématique. Le corps ne reconnaît pas ça comme étant non-soi. Mm-hmm. Il ne va donc pas l'attaquer. Donc, nous, on va essayer de trouver des cibles qui vont permettre de différencier le cancer du soi pour attaquer le cancer, non pas le soi. Quand on parle de chimiothérapie, par exemple, ça, c'est des médicaments très agressifs qui vont juste attaquer toutes les cellules qui se reproduisent rapidement.
Ouais.
De là qu'on parle aux cheveux.
Par les cheveux, tout ça.
Ou on aurait des problèmes au niveau intestinal, gastrique. Toutes les cellules qui se reproduisent rapidement vont être atteintes.
Mm-hmm.
Et puis, on essaie que le cancer, on le tue avant de tuer la personne. C'est ça le but en chimiothérapie. Aujourd'hui, on essaie de développer des thérapies un peu plus intéressantes, telles que l'immunothérapie, où on va essayer de reproduire un peu ce que le corps aurait dû faire en première place, puis aider le corps donc à détruire le cancer lui-même. Mais donc, ouais, nous, on est vraiment là-dedans. Puis en ce moment, donc, on fait notre validation clinique au Centre de recherche du CHUM, en partenariat avec Pfizer Canada. Puis on est en train de la compléter. Puis c'est pas mal ça. C'est là qu'on est rendu, vraiment.
OK. Et un peu plus sur les technologies, donc tu m'as montré des photos tout à l'heure, mm-hmm. tu m'expliquais que jusqu'à maintenant, ces technologies de vieilles de 40 ans, c'était vraiment subjectif parce qu'ils voyaient ces images de cellules cancérigènes ou de tumeurs au microscope mm-hmm. et ils évaluaient l'ampleur de la tumeur vraiment juste par la couleur, la décoloration et ça. Mais vous offrez vraiment une manière de le voir beaucoup plus clairement et de numériser un peu ce cancer-là.
Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Donc, en gros, ce qui est utilisé actuellement, c'est on va utiliser des colorants avec des anticorps.
Mm-hmm.
L'anticorps va aller s'attacher à des antigènes, des protéines de surface sur le cancer, puis on va modifier notre anticorps pour être adapté à la cible qu'on veut savoir. C'est comme des clés puis des serrures. Bon, les serrures mm-hmm. sont sur les cellules, la clé, c'est l'anticorps.
Et vous envoyez les clés?
Les technologies sont toujours basées sur... On attache un colorant avec une clé. La clé va sur la serrure qu'on veut savoir. Puis là, on peut changer les serrures pour aller regarder... on peut changer les clés pour aller voir d'autres serrures.
Mm-hmm.
Vu que c'est un colorant, tu sais, si tu déposes une goutte de colorant à quelque part, bien, ça s'étend, right? C'est ça. Après ça, si tu déposes une goutte de colorant jaune puis une goutte de colorant bleu, ça va devenir vert. Puis là, je te demande, évalue l'intensité du jaune. Bonne chance, ouais. Nous, pour donc pas avoir ces enjeux-là. Ah, puis c'est ça. Puis après ça, c'est que le pathologiste, lui, le médecin qui regarde le microscope, lui, il va regarder ses cellules. Puis il sait que plus il y a une expression protéique de la protéine que nous, on regarde, qui est HR2, plus la cellule, le tissu va devenir brun. Alors, initialement, il est rose. Plus il va devenir brun. Puis là, lui, il doit deviner jusqu'à combien de pourcents est-ce que c'est devenu brun. Juste en regardant.
Wow, donc
c'est sûr que, tu sais, je veux dire, ils ont 5 ans de résidence pour ça. C'est pour ça que c'est aussi long, les études, puis ils spécialisent, puis ils s'entraînent vraiment beaucoup.
Mais l'erreur humaine est toujours présente.
Puis c'est pas par manque d'expertise, c'est juste parce que la technologie est pas assez bonne. Genre.
Mm-hmm.
Puis donc, c'est ça, t'as des taux... C'est vraiment un bordel dans le monde de la pathologie. C'est vraiment un problème qui est maintes et maintes fois repris et réabordé. Puis certaines études donc, vont montrer que si tu envoies le même échantillon de tissu à différents labos à travers le monde, tu auras des taux de variabilité qui vont jusqu'à 74%
wow.
dans les cas les plus complexes.
Ce qui fait la différence entre la vie et la mort.
C'est une autre question après ça à poser. Dans le sens... Tu sais, si j'aurais dû donner médicament A, mais je t'ai donné médicament B, puis que t'es mort, est-ce que ça veut dire... T'aurais pas nécessairement non plus répondu... On sait pas si t'aurais répondu au médicament A tant qu'on l'a pas testé. En un coup, c'est ça. Tu peux pas dire que ton médicament va fonctionner tant que tu l'as pas essayé sur le patient puis que vraiment ça fonctionne. Tu peux estimer une probabilité de chance de succès basée sur le profil que t'as, mais tu vas jamais le savoir à l'avance. Donc, pour ça, c'est difficile à dire, mais on peut néanmoins dire qu'en regardant les protocoles cliniques, il y a des cas que nous, on est capable de dire « Cette patiente-là aurait dû avoir tel médicament puis c'est pas ce qu'elle a eu », selon les protocoles cliniques.
OK. C'est très intéressant. Et là, vous en êtes à quelle étape donc, du processus de fabrication
prototype? Ouais, notre prototype est fait.
Mm-hmm.
Notre technologie, elle existe. On est en ce moment en train de... On utilise la biobanque de tissus du CHUM parce que vu qu'on est en pathologie, à chaque fois que tu as une biopsie qui est faite et que le CHUM, tu l'envoies au CHUM, les hôpitaux universitaires qui font ça, ils vont garder le tissu pendant au moins 10 ans dans leur biobanque. Ça sert à la recherche. Donc nous, ce qu'on va aller prendre, c'est on va aller rechercher justement des vieux échantillons qui ont été utilisés. On va utiliser notre technologie, puis on va comparer notre technologie avec le diagnostic initial qui avait été posé. On est dans cette phase-là en ce moment. Puis là, on voit des différences entre que des cas que nous, on aurait dit « ça, c'est positif, ça, c'est négatif », qu'il y a de la discordance avec le diagnostic qui avait été posé. Plus tard, dans notre deuxième phase, on va aller regarder maintenant au niveau de la réponse des patients au traitement qui leur a été donné. C'est-à-dire, si un patient a été jugé éligible à médicament A, nous on dit qu'elle aurait dû être éligible à médicament B, elle a reçu médicament A, elle n'a pas répondu à médicament A, ben nous on dit, tu vois, comme visiblement, c'était peut-être pas le A qu'elle aurait dû avoir, elle aurait dû avoir un autre médicament. Fait que c'est ce qu'on est en train de regarder.
Okay, wow.
Ça, ça va être dans une deuxième phase.
Ça, ce serait dans la deuxième phase.
C'est ça. On n'est pas encore rendu là parce que, bien sûr, que pour des raisons de pureté scientifique, on ne peut pas avoir déjà accès aux résultats parce que là, tu pourrais comme aller tout biaiser, aller jouer avec tes data et corrompre tout le truc au complet. Donc, on n'y a pas encore accès. Mais nous, on voit la discordance entre ce qu'on fait, nous, puis ce qui avait été fait.
Alors. OK, donc il y a toute une pile d'étapes à remplir avant de pouvoir vraiment launch ce produit-là.
Ouais, c'est sûr, c'est vraiment long, avec raison. Là, je veux dire, au final, nous, notre objectif final, ben, tu sais, dans un moyen long terme, c'est d'être un aide au diagnostic pour les pathologistes. Donc, c'est sûr que nous, on veut avoir un poids sur la décision diagnostique qui est faite, la décision de traitement. Long shot, c'est d'être la technique de diagnostic. Donc, c'est sûr que ça a une implication quand même énorme. Tu peux pas sauter des étapes en faisant ça.
C'est sûr, ouais.
Mais ouais, ça va quand même bien. On est accompagné par des pathologistes au CHUM, Dr Trudel et Dr Albadine. Toutes deux très, très bonnes pathologistes, très aidantes.
Et le but final donc de cette technologie, ce serait le rendre disponible pour des chercheurs ou le rendre disponible en pharmacie ou en recherche?
Ouais, dans un premier temps, nous, on veut le rendre disponible pour des chercheurs. En gros, notre manière dont on veut rentrer sur le marché, c'est d'un coup que nous, on a nos kits qui fonctionnent, qu'on a prouvé qu'au niveau de la validation clinique, ils sont meilleurs. On peut le vendre à des chercheurs. On n'a pas besoin d'une homologation de Santé Canada pour ça. On peut le vendre à des chercheurs, faire de la recherche clinique, entrer sur des développements de nouvelles drogues avec des pharmaceutiques. À savoir qu'une compagnie pharmaceutique, quand elle développe un nouveau médicament, en oncologie, est obligé de développer le test de diagnostic compagnon qui vient avec, qui sert à aider les médecins à savoir quand donner le médicament.
Mm-hmm.
Ils sont obligés. Donc, nous, on peut offrir ce service-là aux pharmaceutiques. Ça va leur réduire leur coût d'opération puis augmenter leur chance d'être approuvé à la FDA ou à Santé Canada. D'un coup que ça, c'est fait, là, on peut... la ligne finale de ça, c'est d'être co-accepté avec un médicament par Santé Canada, par la FDA. Puis là, on peut être utilisé en hôpitaux. Mais tu peux comprendre que ça, c'est long à faire. C'est vraiment... Ouais. C'est quand même très long. Puis il y a
combien d'années à peu près?
Ben, je te dirais, tu sais, on pense qu'on serait capable de commencer à commercialiser un petit peu cette année, vraiment au niveau de la recherche pure. Mais pour ce qui est de comme utilisation clinique d'hôpitaux, c'est plus comme 2027, 2028, là, dans ces eaux-là.
OK, wow. Ben, c'est vrai, c'est vraiment un type d'entrepreneuriat différent.
Ouais.
Parce que c'est des années de recherche, si tu deals avec des millions de dollars, là, comme tu me disais tout à l'heure, il y a une grosse somme en jeu et beaucoup d'années d'attente avant qu'on voit un vrai retour financier ou vraiment si ça marche ou non. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un modèle de pas mal tout ou rien, là, ce genre de compagnie-là. Nous, on a quand même, contrairement, mettons, une compagnie qui vraiment développe un nouveau médicament. Nous, on est capable quand même d'aller faire un peu des ventes intermédiaires dans l'industrie de la recherche. Mais c'est sûr que beaucoup, beaucoup de la compagnie est basée juste sur de la R&D, tu sais.
R&D?
Du recherche et développement.
Ouais.
Puis c'est sûr qu'on a beaucoup besoin. Ça prend des grandes entrées quand même de capital, d'argent là-dedans.
Et vous le trouvez où, ce capital-là?
Pour l'instant, ça, vu que ça a été vraiment drivé par la Polytechnique, par le labo de recherche, c'est une technologie qui a bénéficié plus de 2 millions de dollars en fonds de recherche dans le laboratoire de professeur Meunier.
Mm-hmm. Par la Polytechnique?
Vraiment via la Polytechnique. Nous, en fait, on a, à l'automne, on a négocié notre entente de licence exclusive, puis on a le brevet, mais ça appartient vraiment à la Polytechnique. Puis nous, on a la licence exclusive, mais oui, c'est une technologie de Polytechnique, tellement. Puis, donc, ça, c'est au niveau de la recherche. On a été, comme tu le comprends, très chanceux à ce côté-là. C'est nous qui avons donc la licence exclusive, l'intelligence, la propriété intellectuelle.
Donc, c'est à vous, c'est pas à Polytechnique.
C'est ça.
OK.
Mais c'est entre guillemets, tu comprends, c'est c'est à Polytechnique et Polytechnique nous donne la licence exclusive. C'est-à-dire que personne d'autre peut l'avoir. C'est à nous. Mais nous, en échange, on redonne des royautés à Polytechnique. Il y a des coûts associés à ça. Puis c'est une manière, donc, de comme redonner, en fait, à la communauté universitaire l'argent que nous, on a eu au final en subvention pour financer d'autres recherches. Puis en espérant.
Ouais, donc c'est un cycle au final.
C'est ça, c'est un cycle. C'est vraiment cette idée-là.
Mais parle-moi de l'importance de cette propriété intellectuelle. Pourquoi c'est important de l'avoir dans ce milieu-là?
Parce que sinon, tu te fais voler.
Ouais.
C'est des technologies qui sont assez, quand même, entre guillemets, simples à faire si tu as la bonne expertise.
Ah ouais?
Ouais. La plupart des... Comme... Tu sais, un médicament, la plupart des médicaments, je pense que si tu avais si tu veux regarder les brevets, tu pourrais le reproduire chez toi si tu as l'expertise, bien sûr, dans le milieu. Mais...
Wow.
Les brevets, c'est une manière à l'industrie d'accorder des monopoles à des compagnies pour les récompenser d'avoir mis les sommes de recherche nécessaires à développer ce.
OK, et le brevet, c'est donc ce brevet-là dont tu parles. Ça, non. C'est le droit de...
Ben, nous, on a un brevet aux États-Unis. En gros, un brevet, si tu dis, c'est ma technologie, voici comment je l'ai fait. Tu la donnes, tu montres comment tu l'as fait.
C'est ça.
Mais personne d'autre que toi a droit de l'utiliser, de la vendre pendant 20 ans. Après 20 ans, ça devient du domaine... Bon, nous, dans notre milieu, c'est comme ça, mais après 20 ans, ça devient du domaine public. Puis là, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, s'il n'y avait pas de brevet, personne ne voudrait faire de la recherche.
Ouais.
Parce que tu devrais dépenser des millions à développer un médicament.
Et au final, tout le monde te vole.
La seconde que tu le sors, tout le monde veut juste le copier. Faire des versions de ton médicament générique. Puis là, toi, t'es pas capable de rembourser ton R&D que t'as fait.
Yeah.
Mais, tu sais, des médicaments qui sont rendus publics, ben genre de l'ibuprofène, c'en est. Ou de l'acétaminophène, que c'est en vente libre. Tu peux aller acheter ton Advil ou tu peux aller acheter la marque Random.
Donc ça, c'est après 20 ans de...
Habituellement, c'est après 20 ans.
Habituellement. Ouais. Ah, intéressant.
Donc, c'est ça. Nous, on en a un. Puis, ouais, le... Au final, comme la valeur dans notre compagnie, c'est l'intelligence, la propriété intellectuelle qu'on a.
C'est ça qui
parce que,
qui
a comme de la tu valeur. Comprends, le produit lui-même, c'est ça, c'est facile à créer.
Ouais.
Ce qui a de la valeur, c'est comme comment tu fais pour produire ça, d'où ça sort, comment tu as fait pour optimiser ce produit-là, pourquoi est-ce que c'est exactement comme ça que tu dois le construire versus une autre manière. Ben,
ouais.
Le faire versus une autre manière. Puis, c'est ça.
Et est-ce que vous envisagez prendre cette voie-là de publier et d'avoir le droit, entre guillemets, pendant 20 ans?
Mais c'est ça, on en a déjà un aux États-Unis.
OK.
On a déjà un brevet sur nos particules d'alliage or-argent qui est aux États-Unis. Pour l'instant, on en a un. Le reste, on a comme développé des techniques d'affinage, d'optimisation, mais qui sont pas brevetées, qui sont plus en secret industriel.
OK. Et c'est ça, donc, le but, ça reste le but de dans le fond, ouais, c'est ça, vendre ces technologies, les rendre disponibles en clinique.
Ouais, le long shot, c'est vraiment ça. Et plus court terme, nous, la manière dont on le voit, c'est vraiment, on veut le plus possible être intégré en recherche, de venir montrer au monde, en fait, comment notre technologie est meilleure que le standard de soins actuel, pour inciter les gens à vouloir l'utiliser. Puis après ça, on verra ce que ça donne. Mais oui, c'est sûr qu'au final, le but derrière ça, c'est quand même d'offrir des meilleures techniques de diagnostic aux patients atteints de cancer pour optimiser les médicaments qu'ils ont. Nous, c'est comme ça qu'on voit. Depuis, tu sais, l'industrie pharmaceutique, il y a eu vraiment un boom, surtout en oncologie, de plus en plus de médicaments qu'on a, de différents types. Mais on sait plus, on a de la misère à savoir à qui les donner des fois.
Dans quel sens?
Dans le sens qu'on va avoir... En onco, ça fonctionne par ligne de traitement. Donc, tu as ton traitement de première ligne, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Puis, tu vas essayer de cibler selon donc, les expressions. Là. Donc, si tel patient exprime telle protéine, c'est ça ta première ligne. Après ça, tu regardes pendant 6 mois. Est-ce qu'il répond, est-ce qu'il répond pas? S'il répond pas, c'est-à-dire que le cancer le cancer augmente de taille. Absolument, c'est ça quand ça répond pas. Ben là, tu vas sur une deuxième ligne. Okay, on va changer le médicament. On va essayer un autre médicament. C'est vraiment un processus encore, je veux pas, d'essai-erreur. Essaie le plus possible de favoriser, d'avoir des probabilités au départ, de dire comme cette patiente-là, X% de chance de répondre à tel médicament. ce médicament-là, X % de probabilité de réduire le taux de progression, d'augmenter son progression-free survival, le temps de survie sans progression du cancer, par exemple. C'est des métriques qui sont super importantes, mais ça reste qu'on peut pas, on va jamais savoir à 100% avant de te donner un médicament si tu vas y répondre ou pas. C'est quoi les effets secondaires que tu auras aussi?
Aussi, ouais.
Ça, on va pas savoir.
C'est kind of big deal dans le domaine de...
Donc, nous, là, on veut changer le statu quo, c'est vraiment d'optimiser ces probabilités-là au début. De dire, toi, est-ce que vraiment c'est tel médicament versus tel médicament? Ben, nous, on veut que ton médicament de première ligne, finalement, ce soit le plus souvent possible le médicament auquel tu vas répondre.
OK. Ce qui c'est rendra l'utilité. Tout est plus efficace.
Ouais, c'est ça l'utilité de ce qu'on fait. Puis les pharmaciens, comme... Tu sais, celui qui est en ce moment en première ligne, ben... La pharmaceutique qui a la première ligne partout va pas être contente, mais celui qui est en deuxième ligne va être très content.
C'est sûr, vous avez de la compétition. Ouais,
c'est sûr. C'est ça. Nous, on peut... Nous comme tout le monde peut être gagnant quelque part. C'est-à-dire que c'est ça. Ceux qui sont... Il y a beaucoup de médicaments qu'on serait capable de trouver que... Tu sais, au final, en ce moment, il est peut-être en troisième ligne pour un cas général de cancer, mais finalement, ça devrait être en première ligne pour une niche spécifique d'expression.
C'est vous permettrez de pouvoir différencier
c'est
ça.
C'est ça qu'on veut faire.
Ouais.
C'est ça qu'on veut réussir à faire.
Ben, tu me fais sentir qu'il y a de la compétition qui ne serait pas d'accord avec, qui ne serait pas content avec leur agenda financier. Est-ce que vous amènerez cette nouvelle technologie?
Ça dépend vraiment de dans quel cancer on est, quelle protéine on cible.
Ouais.
C'est sûr que ça viendrait quand même... Tu sais, c'est énormément de lobby, ces affaires-là. C'est super long. Est-ce que vraiment tu peux, à ce point-là, comme changer des galènes puis tout? Je sais pas. Mais oui, c'est sûr que potentiellement, il y aurait manière de...
Est-ce que vous avez eu des offres ou est-ce que vous imaginez qu'il y en aurait qui voudraient vous acheter dans le futur?
Souvent dans l'industrie qu'on est, ça ressemble à ça. Où,
ah ouais?
Ouais, souvent, c'est rare, c'est quand même rare. Il y en a là, beaucoup. Mais il y a des compagnies qui développent des modèles d'affaires de développer des médicaments puis ensuite les vendre à des grosses pharmaceutiques.
Mm-hmm.
C'est
qu'un modèle d'affaires quand même différent dans le monde de l'entrepreneuriat.
Ouais. Ben, dans le sens que c'est un gros B2B où ils focusent juste sur de la R&D pure, de la recherche et développement. Ils s'occupent pas de la distribution. Ils créent des médicaments intéressants, ils les amènent en classe 2. Puis en classe 2, ils se font acheter souvent. Souvent, les pharmaceutiques en classe 2.
Classe 2 qui est...
C'est qu'en gros, dans tes études dans tes études pour amener un médicament sur un marché, tu as différentes études de classe à faire. Donc, tu auras une première étude classe 1 qui est juste de voir la molécule elle-même, est-ce qu'elle est toxique. La classe 2, c'est comme, est-ce qu'elle est bien soutenue? Classe 3, c'est, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice observé à utiliser ça?
OK.
Puis classe 4, c'est ton étude populationnelle at large. Que ça, habituellement, c'est fait après les approbations d'FDA.
OK, la classe 2, c'est là que ça se fait vendre souvent.
Souvent, c'est en classe 2.
Wow. Et ben, vous imaginez classe 2, faire classe quoi? 3.
Nous, on développe quand même, c'est sûr, un modèle d'affaires pour aller sur le marché.
Mm-hmm.
Mais on serait pas fermé. Puis tu peux... Ça, c'est genre la manière dont je le vois personnellement, mais c'est si Pfizer décide qu'il aime ta technologie puis ils la veulent, ben, que tu veux ou non, ils vont l'avoir. Ouais. ils vont venir te voir, ils vont dire « Salut, on trouve ça cool, on veut t'avoir. »
On veut avoir la
compagnie. Puis là, t'es comme...
Tu peux rien faire.
Tu peux refuser, mais si tu refuses, ils vont s'arranger autrement pour refaire exactement ce que tu fais. Puis c'est eux qui ont le marché au final, genre c'est eux qui ont la distribution.
Ouais, ils ont vraiment le marché.
Comme c'est ça, tu peux pas t'en compétitionner à ce point-là contre eux. Donc, t'es mieux d'être ami avec.
Bah, c'est ça que j'entends beaucoup du monde de la pharmacie. Là. C'est des géants et puis des milliards de mini-compagnies qui essaient de prendre les graines qui restent.
Ouais. C'est quand même un marché où il y a des très, très, très gros joueurs. Quelques très, très gros joueurs.
Vraiment juste une poignée de main de quelques joueurs.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah c'est sûr que c'est un modèle d'affaires intéressant et un type d'entrepreneuriat qui sort du lot. Comment est-ce que ça marche à la base entrepreneuriale, te faire incuber, donc, avec... Ben, est-ce que tu es le seul, déjà? Est-ce que Vega, c'est le seul R&D un peu qui est à la base?
Non, il y en a d'autres. Il y a vraiment des beaux projets qui sortent. C'est agnostique, là. Ça touche à tout. Ils n'ont pas de trucs plus qu'un autre. Ils ont un très fort intérêt pour tout ce qui a un impact social positif. Puis leur mentalité, c'est vraiment de former des entrepreneurs avant de former des entreprises.
Ah!
Qui est, à mon avis, très cool. Moi, c'est... Mais tu vois, c'est ça, j'ai changé, en fait. Qu'ils veulent juste, surtout en premier, t'apprendre comme c'est quoi des qualités d'entrepreneur, t'apprendre ouais. à plus être entrepreneur, à développer un réseau. Ce genre de skill de base, pour vrai, que t'auras pas vraiment ailleurs. Après ça, je sais pas, moi, je suis pas au HEC, là, mais c'est rare que t'apprennes ces affaires-là, je pense, à l'école.
Ouais.
Que eux, c'est vraiment ça, le focus qu'ils ont. Puis ils se disent, en développant un bon entrepreneur, après ça, il est équipé pour développer n'importe quelle compagnie qu'il veut versus développer une compagnie.
Ouais, ben, c'est sûr. Et on parle ouais. souvent du gène entrepreneurial. On parle souvent d'avoir ce gène-là, d'être né entrepreneur, mais je suis d'accord avec cette idée-là que ça se développe.
Je pense, ouais, c'est ça.
Une belle mission de la base entrepreneuriale, de développer des jeunes qui ont peut-être ce gène, mais un peu à l'intérieur d'eux, et de les aider à développer ça.
Ouais, vraiment. Non, c'est vraiment une belle mission. Puis, tu vois, en ce moment, je pense qu'ils ont 120 entrepreneurs, là, comme cette course-là. Wow. Ça devient quand même gros. Cet incubateur-là, c'est vraiment bien. Puis, les gens sont super. Donc, à rejoindre.
Ouais, bah, à noter. Un incubateur ici à Montréal, à HEC.
Ouais, si t'es étudiant à Poly, tu peux très bien y aller.
Bah oui, complètement. Donc, les portes ne sont pas fermées aux étudiants de Poly pour nos éditeurs, à noter. Moi, j'aimerais savoir une question spécifique. Le nom Vega, ça signifie quoi?
Vega, c'est une étoile dans le ciel qui était quand même, qui est plus brillante que beaucoup, beaucoup utilisée pour s'orienter. Et notre technologie au microscope, ça ressemble un peu dans le fond à. On utilise vraiment des nanobilles, nous, attachés à des anticorps. Puis avec on fait refléter de la lumière sur ces nanobilles-là, puis on va voir la lumière au microscope.
C'est vrai, d'après les photos que tu m'as montrées, ça ressemble pas mal à des étoiles, une nuit étoilée, un peu à la Voie lactée.
Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal à des petites étoiles qui brillent sur un microscope. Donc, ça vient de ce nom-là.
D'où le nom Vega, donc, qui est une étoile particulièrement brillante dans le ciel.
Mm-hmm.
Bah, je trouve ça très poétique et beau de finir là-dessus. Donc, c'était très excitant et je pense qu'on peut s'attendre à de très belles choses de la part de Vega et de la part de toi, Arnaud. Donc encore, merci beaucoup pour cette entrevue. Et si un auditeur aimerait te contacter ou contacter Vega, comment est-ce qu'il pourrait le faire?
Moi, je suis vraiment sur LinkedIn pas mal. Beaucoup.
On mettra son LinkedIn dans la description.
Ouais. Sinon, mon email de Vega.
Voilà, on le mettra aussi dans la description. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci à toi.
Merci à tout le monde. Ouais, c'était vraiment un plaisir. Alors voilà, c'était Alexis Gasque et Arnaud Latreille sur Startcast, une initiative de Poly Entrepreneuriat. Je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée.
Merci.